Une lampe pour mes pieds.
Il y avait un écrivain français, nommé Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit un jour, « Si vous voulez construire un bateau, ne rassemblez pas les gens pour ramasser du bois. Répartir le travail et donner des ordres. À la place, dit-il, enseignez aux gens à rêver et à désirer la vaste et infinie mer. En d'autres termes, ne donnez pas seulement aux gens des outils et des tâches, donnez-leur une vision, parce qu'une vision vous porte à travers les tâches et vous permet de rêver. Ce matin, je voudrais que nous regardions le psaume 119. C'est le plus long des psaumes. C'est le plus long chapitre de toute la Bible. Mais plus que cela, le psaume 119 est une vision. C'est une vision de ce à quoi peut ressembler une relation avec Dieu au fil des hauts et des bas de la vie. C'est une vision d'une relation forte et vivante avec le Dieu vivant. Permettez-moi de le dire au départ. Ceci n'est pas un sermon dans lequel je dis que vous devez lire davantage votre Bible. Probablement, nous devrions tous lire davantage la Bible. Mais ce n'est pas le sujet de ce sermon. Ce n'est pas un sermon sur le ramassage du bois, comme l'a dit l'écrivain français.
Au contraire, il s'agit d'un psaume sur le désir de la mer vaste et infinie. C'est un psaume écrit par quelqu'un qui se réjouit dans la parole de Dieu, qui espère en la parole de Dieu, qui vit et respire la parole de Dieu dans sa vie quotidienne. Un autre auteur dit, « Le psaume 119 ne concerne pas l'importance d'intégrer l'écriture dans votre vie. » Il concerne plutôt ce qui se passe lorsque la parole de Dieu s'intègre en vous. Voyez-vous la différence? Le psaume 119 n'est pas rempli de commandements disant « Lisez votre Bible, lisez votre Bible, lisez votre Bible ». Non. Au lieu de cela, c'est une vision. C'est le témoignage de quelqu'un qui dit « Oh, combien j'aime la parole de Dieu !» et je vois son effet et sa puissance dans ma vie. C'est cela que je voudrais que nous regardions ce matin. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi au psaume 119. Il y a beaucoup de versets dans le psaume 119, donc nous ne les afficherons pas à l'écran. Prenez donc un moment pour trouver le psaume sur votre téléphone ou dans votre Bible.
Maintenant, au lieu que je lise ces versets, je veux faire quelque chose de différent cette semaine. Sundar est ici, et il ne va pas simplement lire ces versets, mais il a récemment mémorisé le psaume 119, et il va le réciter de tout son cœur. Nous allons le diviser en 5 parties, donc veuillez regarder avec moi le psaume 119, versets 1 à 8. Dimanche dernier dans la forêt, nous avons regardé Jérémie 17, avec les deux arbres. Un arbre était l'arbuste isolé dans le désert aride, qui représentait la personne qui se fie à sa propre force, au lieu de faire confiance au Seigneur. C'était l'image de quelqu'un qui se confie en lui-même, et non en Dieu.
Mais l'autre arbre, l'arbre qui porte du fruit, avec des feuilles vertes, était l'arbre planté près des ruisseaux d'eau, celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Jérémie a dit que cette personne est bénie. Nous avons observé le psaume 1, qui dit la même chose. Heureux l'homme, dont le plaisir est dans la loi du Seigneur, qui médite la parole de Dieu jour et nuit.
Le même langage se retrouve ici dans les versets 1 et 2.
Bénis sont ceux qui marchent selon la loi du Seigneur, bénis sont ceux qui gardent ses commandements. Considérez donc cela comme la deuxième partie du message de la semaine dernière. Le psaume 119 nous montre le chemin de la bénédiction, et cela vient aussi du fait d'être près de l'eau, près de la source. c'est en étant proche de Dieu par sa parole révélée pour nous. Maintenant, il y a plusieurs mots différents dans ce psaume qui font référence à la parole de Dieu. Instruction, la loi, les voies de Dieu, témoignage, précepte, statut, commandement, règle, jugement, parole, promesse. Ces mots ne signifient pas exactement la même chose, mais dans ce psaume ils sont traités comme des synonymes. Nous voyons beaucoup de ces mots dans cette première strophe de 8 versets. Ce psaume a une structure unique. Il y a 22 strophes. Chaque strophe comporte 8 versets, et chaque verset a 2 lignes. 8 × 22 = 176. Il y a donc 176 versets dans le psaume.
Chacune des 22 strophes commence par une lettre différente de l'alphabet hébreu. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, donc la première section commence avec la première lettre Aleph, comme notre lettre A. Puis après cette section, on passe à Bet, comme notre lettre B. Et ainsi de suite.
Chaque verset, sauf 5, mentionne directement la parole de Dieu. Maintenant, comme c'est le plus long chapitre, nous n'avons pas le temps d'examiner chaque verset de ce psaume en détail. Peut-être qu'un jour je ferai toute une série de sermons sur le psaume 119. Mais ce matin, je voudrais mettre en évidence quelques versets et essayer de comprendre le psaume dans son ensemble comme une pensée unique. Regardez donc avec moi la partie suivante. Psaume 119, 9 à 48. Regardez encore une fois avec moi le verset 9. Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.
Au fil des années, j'ai parlé avec tant de jeunes hommes qui luttent contre la convoitise et la pornographie. Je connais aussi quelques jeunes femmes qui luttent également avec cela. Le psalmiste, lui, n'avait pas d'internet au débit. Il n'avait pas de smartphone, mais nous voyons ici que la lutte reste la même. Comment puis-je rester pur? Quelle est la réponse? Est-ce en bloquant certains sites web? Est-ce en rendant des comptes à d'autres personnes? Ces choses sont bonnes. Elles aident. Mais le psalmiste dit que la façon de rester pur est de garder sa vie selon la parole de Dieu. C'est en connaissant la parole de Dieu. C'est en s'imprégnant des Écritures. C'est en chérissant les commandements de Dieu. Le psaume 119, verset 37, dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. » Encore une fois, le psalmiste n'avait pas toutes nos distractions modernes. Mais la tentation était toujours là. La tentation de regarder des choses qui ne sont pas vraies, nobles et pures. Il prie « Détourne mes yeux de ces choses. Aide-moi à marcher dans tes voies, car tes voies sont la vie. »
Enchérir la parole de Dieu vous aide à devenir la personne que vous souhaitez être. Je ne rencontre jamais quelqu'un qui soit satisfait des convoitises du cœur. Au contraire, ils détestent succomber à la tentation. Ils veulent faire mourir ce péché. C'est par Jésus-Christ que vous pouvez faire mourir le péché, et l'un des moyens qu'il vous a donné, c'est sa parole. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, quel était son système de défense?
C'était la parole de Dieu, l'épée de l'esprit.
Chérir la parole de Dieu vous aide à devenir la personne que vous voulez être. Chérir la parole de Dieu vous aide à vaincre le péché et la tentation. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Regardez encore avec moi le verset 11. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mémoriser l'Écriture renouvelle notre esprit et transforme notre vie. Cela fortifie et encourage notre foi. Cela aide à vaincre le péché et la tentation, car la parole est toujours avec vous, dans votre cœur et dans votre esprit.
Dallas Willard a écrit « Si je devais choisir entre toutes les disciplines de la vie spirituelle, je choisirais la mémorisation de la Bible, car c'est une façon fondamentale de remplir notre esprit de ce dont il a besoin. » Certaines personnes aujourd'hui pourraient dire que mémoriser les Écritures n'est plus important parce que nous avons la Bible sur nos téléphones à tout moment. Mais il ne s'agit pas seulement d'accéder à l'Écriture. Il ne s'agit pas d'accès. Il s'agit de résidence. Colossiens 3:16 dit de laisser la parole du Christ habiter en vous richement. Habiter en vous. La définition d'habiter est de vivre dans un espace spécifique. Laissez la parole du Christ habiter en vous. Laissez-la vivre en vous. Donnez-lui une chambre. Donnez-lui une grande place dans votre cœur. Et remplissez-la de l'Écriture. Il ne s'agit pas d'accès. Il s'agit de résidence. C'est formidable que nous puissions avoir la Bible sur nos téléphones. Rendons grâce à Dieu. Mais la Bible ne dit pas de laisser la parole du Christ habiter dans votre téléphone. Elle dit d'habiter en vous. Et ce matin, Sundar en donne un exemple. Sundar, qu'est-ce qui t'a amené à mémoriser le psaume 119?
Récemment, Sundar a subi une opération des yeux, mais cela n'a posé aucun problème pour qu'il médite sur la parole de Dieu pendant sa convalescence, car elle était déjà conservée dans son cœur et dans son esprit. Le psaume 119, versets 49 à 88, le psaume 119 ne parle pas seulement de s'asseoir sur la montagne et de passer de bonnes journées. Il parle aussi de traverser des moments difficiles et de souffrir. Regardez les versets 50 à 51. Psaume 119, 50-51. C'est ici ma consolation dans ma détresse. Ta promesse me rend la vie. Les orgueilleux me raillent tout à fait, mais je ne me détourne pas de ta loi. Psaume 119, 61. Les pièges des méchants m'en serrent, je n'oublie pas ta loi. Psaume 119, 69. Les orgueilleux m'accablent de mensonges, mais moi, de tout mon cœur, je garde tes ordonnances. L'auteur du psaume est au cœur du combat. Il est affligé. Les gens autour de lui mentent à son sujet et font le mal. Il est pressé de toutes parts.
Mais malgré cela, il espère dans le Seigneur. Cela m'amène à mon deuxième point. Deuxièmement, chérir la parole de Dieu te donne de l'espérance au milieu de la souffrance. Bien qu'il soit entouré de ses ennemis, il se souvient de la parole de Dieu. Il a confiance dans le Seigneur parce qu'il sait qui est Dieu. Regardez le verset 68. Psaume 119, 68. Tu es beau et tu fais le bien. C'est un verset à mémoriser. C'est un verset à cacher dans ton cœur. Il est facile de dire que Dieu est bon lorsque tout se passe comme tu le souhaites. Mais peux-tu dire que Dieu est bon lorsque tout s'écroule? C'est difficile à faire si ta compréhension de Dieu dépend de tes circonstances, car les circonstances changent. Mais si la parole de Dieu demeure en toi, si tu connais sa nature et ses attributs, alors tu seras solide comme un roc lorsque la souffrance et l'affliction viendront. La souffrance sera toujours là. La douleur viendra encore. Mais au milieu de cela, tu pourras dire, « Seigneur, tu es bon et tes voies sont bonnes. » Regardez à quel point ceci est important.
Je vais sauter jusqu'au verset 92. Psaume 119, 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Ce sont des paroles fortes. Il dit, si je n'avais pas pris plaisir à ta parole, je serais mort. Je n'y serais pas arrivé. Chérir la parole de Dieu te donne de l'espérance au milieu de la souffrance. Regardons Psaume 119, 89 à 128. Regardez comment l'auteur parle de la parole de Dieu. Psaume 119, 97. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. 10 fois dans ce psaume, l'auteur parle de la parole de Dieu comme étant sa joie. Il y a une grande différence entre le devoir et le plaisir. Il y a une grande différence entre faire quelque chose parce que j'en ai envie et faire quelque chose parce que je dois le faire.
On a l'impression, en lisant le psaume 119, que l'auteur ne se réveillait pas chaque jour en se forçant à passer du temps dans la parole de Dieu. Il ne semble pas que ce soit un devoir pour lui. Au contraire, cela semblait être sa joie. Cela semblait être quelque chose qu'il avait envie de faire. Maintenant, tu pourrais entendre cela et penser, « J'aimerais que ce soit moi. » Cela me rappelle ce même. Je voudrais que quelqu'un me regarde comme il la regarde. Tu peux lire ce psaume et penser, « J'aimerais regarder la parole de Dieu comme le psaumiste le faisait. » Eh bien, je pense que c'est possible, ce qui m'amène à mon troisième point. Troisièmement, chérir la parole de Dieu nous fait passer du devoir au plaisir. Mais je pense que parfois, il faut passer par le devoir pour arriver au plaisir. Tu dois goûter et voir que le Seigneur est bon. Parfois, tu dois faire quelque chose parce que tu dois le faire.
Afin d'en arriver au point où tu as envie de le faire. Passer du devoir au plaisir. Laisse-moi te donner un exemple.
Quand j'étais enfant, je faisais du vélo. Mais une fois adulte, j'ai arrêté d'en faire. Je préférais marcher. Marcher, c'est gratuit, il n'y a rien à attacher. Mais une fois que mes enfants ont commencé à faire du vélo, j'ai dû en faire avec eux. Et je n'étais pas vraiment enthousiaste à cette idée. Mais dès qu'ils ont commencé à faire du vélo, j'ai roulé avec eux. Très vite, j'ai acheté mon propre vélo. Et après avoir roulé avec eux, j'ai commencé à apprécier cela. Il n'y a pas de circulation quand on fait du vélo. C'est un bon exercice. Maintenant, dès que j'en ai l'occasion, je prends mon vélo. J'aime ça. C'est devenu un plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Parfois, cela demande des efforts et du travail. Surtout lorsqu'il faut monter une côte. Mais voici l'essentiel. J'aime la personne que je suis. Quand je fais du vélo, j'aime la façon dont je me sens. Comme le dit le proverbe, les gens en bonne santé font des choses saines. Et je me sens en bonne santé quand je fais du vélo.
De la même manière, les personnes en bonne santé spirituelle font des choses saines spirituellement. Ce serait formidable si nous étions toujours dans un état de plaisir lorsque nous lisons nos Bibles. Ce serait bien si nous nous levions le matin et lisions 30 chapitres. Ce serait génial. Mais si tu es comme moi, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, tu te réveilles avec l'envie de lire la parole de Dieu et certains jours, cela ressemble à un travail. C'est comme monter une côte à vélo. Mais parfois, il faut passer par le devoir pour arriver à la joie. Je le dirai ainsi.
Je ne regrette jamais le temps passé dans la parole de Dieu. Certains jours, il est facile de la lire. D'autres jours, cela ressemble plus à du travail, mais je ne le regrette jamais. Les personnes en bonne santé spirituelle font des choses saines spirituellement. Les personnes en bonne santé spirituelle ont des habitudes spirituelles. Heureux l'homme qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Regardons la dernière partie. Psaume 119, 129 à 176. Applaudissons Sundar. Merci frère, pour ton exemple de cacher la parole de Dieu dans ton cœur.
Je veux revenir, peut-être, au verset le plus célèbre du psaume 119. Verset 105, psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Peut-être connais-tu le chant? J'ai déjà dit que quand je regarde en arrière sur ma vie, il me semble que Dieu a tendance à me guider davantage avec une lampe de poche qu'avec un projecteur. Un projecteur produit une grande quantité de lumière, alors qu'une lampe de poche n'en produit pas autant. Le point important, c'est que Dieu ne me dit généralement pas « Clint, voici mon plan sur 30 ans pour ta vie », comme un projecteur. Au lieu de cela, il me montre généralement la prochaine étape, qui mène à la suivante, puis à la suivante, et ainsi de suite. Il me guide davantage avec une lampe de poche. Et on retrouve cette même image au verset 105. Le psalmiste ne dit pas que la parole de Dieu est comme un projecteur, grâce auquel on peut tout voir. Il dit que c'est comme une lampe qui éclaire le chemin où Dieu veut qu'il aille.
L'une des questions qu'on me pose le plus souvent est « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Que réserve Dieu pour mon avenir ? Que veut Dieu que je fasse de ma vie ?» Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la même question aujourd'hui. Or, la Bible ne nous dit pas si nous devons être médecins ou avocats. La Bible ne nous dit pas si nous devons vivre en Chine ou en Angleterre. La Bible ne donne pas de nom précis concernant la personne à épouser. Pour ces éléments précis, nous comptons sur le Saint-Esprit et sur le peuple de Dieu pour obtenir la sagesse nécessaire à certains de ces choix particuliers. En d'autres termes, la Bible n'est pas comme Google Maps, qui vous dit d'aller sur 2 kilomètres, puis de tourner dans telle rue, de faire 5 kilomètres, puis de tourner dans telle autre rue. Google Maps vous donne des instructions très précises. Je dirais qu'habituellement, la Bible ne nous donne pas de détails précis.
Au lieu de cela, je comparerai la Bible à une boussole. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une boussole?
Une boussole ne vous donne pas de détails précis.
Elle vous indique plutôt la direction que vous prenez.
Elle vous montre si vous allez dans la bonne direction.
Mon dernier point, quatrièmement, chérir la parole de Dieu vous conduira sur le bon chemin. Lorsque je parle avec certains d'entre vous, parfois vous avez peur de prendre une mauvaise décision concernant votre avenir. Et c'est normal.
Il peut être effrayant de prendre de grandes décisions.
Mais je crois que si vous êtes imprégné des Écritures, si vous trouvez votre plaisir dans le Seigneur, et cherchez sa volonté pour votre vie, si c'est là où est votre cœur, si telle est votre prière, je ne crois tout simplement pas que vous puissiez prendre une décision terrible qui ruinerait votre vie. Parce que sa parole est une lampe à vos pieds. Lorsque vous lui faites confiance, il aplanira votre sentier. Il vous donne juste assez de lumière pour faire le prochain pas de foi. Et quand vous y arriverez, il vous donnera juste assez de lumière pour le pas de foi suivant.
et ainsi de suite.
Encore une fois, le psaume 119 est une vision. C'est une vision de ce à quoi une relation avec Dieu peut ressembler.
Dans les hauts et les bas de la vie,
et vous tenez la clé de cette vision entre vos mains.
Que vous teniez une Bible physique ou qu'elle soit sur votre téléphone.
Souvenez-vous du verset 1.
Heureux ceux qui marchent dans la loi de l'Éternel, qui gardent ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur.
Dieu s'est révélé à vous à travers sa parole. Et la pleine révélation de Dieu est venue par son Fils, Jésus-Christ. La parole a été faite chair et a habité parmi nous.
Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi.
Il est mort, afin que vous puissiez vivre et marcher dans les voies de Dieu.
Le psaume 119 n'est pas une vision impossible pour votre vie.
C'est possible.
C'est accessible.
Cela commence
très simplement. Il suffit d'ouvrir ce livre et de prier le verset 18.
Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi.
C'est aussi simple, et c'est aussi glorieux.